Mémoire d'une aveugle, troisième partie. Les semaines se passèrent ainsi, puis les mois, puis les années. Je commençais à me décourager, à trouver le temps fort long, à me regarder au miroir 20 fois par jour pour m'assurer que je ne vieillissais pas et que j'étais toujours belle. Je fis des lectures infinies. J'allais à confesse très souvent, non par dévotion, hélas, mais pour raconter à mon confesseur mes péchés de pensée, ne pouvant lui en conter d'autres, malgré l'envie que j'en avais. J'employais enfin tous les moyens de tuer l'ennui, et l'ennui était le plus fort. Ma tante même devint impuissante à le conjurer. Sa tendresse échouait contre cet écueil. Elle m'emmena avec elle chez monsieur de Toulonjon, où il y avait une assemblée de noblesse et où nous devions passer un mois. Elle espérait me distraire, changer mes idées, et peut-être aussi rencontrer à ses fêtes ce mari introuvable jusque-là. Je partis sans plaisir. Je ne daignais même pas songer à mes atours, fort modeste, il est vrai, sans ma tante. Je m'en allais en cornette du matin avec un coffre vide. Heureusement, la bonne fée y avait pourvu. Elle me fit venir de Dijon 2 ajustements complets, un pour le matin, un pour le bal, qui, avec quelques nippes de ma mère qu'elle retapa, me formèrent une garde-robe convenable. Je n'en demandais pas tant. Le premier jour, je ne vis rien dans cette foule presque inconnue. Je ne distinguais rien, et j'entendis autour de moi les compliments habituels sans m'en soucier. L'abbé de Sainte-Croix, prélat romain, camérier du pape, homme d'un esprit, d'une intrigue et d'une amabilité infinie, était au nombre des convives. Il habitait l'Italie et il venait seulement passer quelques mois en Bourgogne où il avait des parents. Le hasard nous rapprocha, il m'attaqua de paroles et se prit à me faire causer. Je le jugeai digne de m'entendre, et je lui racontai mes chimères, presque sans m'en apercevoir, uniquement parce qu'il m'y poussa. J'allais fort loin dans mes confidences, encouragé par ses questions. J'avouai l'arnage, je n'avais que cela à avouer. J'avouai nos espérances, nos folies d'imagination. Il me rit au nez, me regarda fixement, et, après un moment de silence, il me dit « Je veux vous marier, moi. » Le rouge me monta au visage. C'était le 12e jour de notre connaissance, d'un commerce continuel du matin au soir. Nous fussions restés 10 ans dans une ville que cela n'eût pas été aussi intime. On le comprend. Je n'en devins pas moins comme une cerise à cette seule parole « Je veux vous marier. » « Vous voulez me marier? Vous, monsieur l'abbé ?» « Oui, mademoiselle, et si vous êtes raisonnable, vous accepterez le mari que je vous destine. Vous avez tantôt 21 ans, le bel âge. Plus tard, on descend le mauvais côté de la montagne. C'est le moment de s'arrêter, ne le pensez-vous pas ?»« Monsieur, je ne vous ai que trop avoué ma pensée, peut-être. »« Quelle folie! Me prenez-vous pour un abbé de cour ? Écoutez ma proposition. » Que diriez-vous d'un gentilhomme de très vieille souche, dont les aïeux sont inscrits dans les annales de la Bourgogne, même sous ses ducs, colonel d'un régiment de dragons, marquis, et qui me fait l'honneur de m'appeler son cousin? La dernière raison est la meilleure. Voilà les qualités. Passons aux défauts.
Il en a sans doute, nous en avons tous, mais il en a peu. Mon protégé sera, en outre de tout le reste, lieutenant général de l'Orléanais, charge que possède sa famille depuis 1666.
Ah, monsieur, vous me faites une peur effroyable. Votre prétendu doit être une espèce de monstre, que vous tardez tant à me le confesser.
Je dois convenir qu'il n'est pas beau, mais il a
l'air noble et de qualité.
Passons, je connais ces excuses-là. Il n'a point la prétention d'arriver jamais à l'Académie française.
Ni moi non plus, je vous le jure.
On prétend qu'il est ennuyeux.
Ah, cela est plus grave.
Qu'il est d'un caractère faible et facile à conduire.
Tant pis, quoi qu'il fasse et moi aussi, nous donnerons à parler aux gens.
Quand on ne leur jette pas de pâture, ils en prennent. Il vaut mieux s'exécuter de bonne grâce.
Vous avez réponse à tout, mais aurez-vous réponse à mon malheur si je vous en demande compte?
Vous ne serez pas malheureuse.
Pourquoi donc?
Vous avez trop d'esprit pour cela. Avec un esprit tel que le vôtre, on ne prend que le bon côté de la vie. On laisse le reste au sot.
Qui ne le ramasse point, monsieur? Ne calomniez pas les sots. À l'endroit du bonheur, ils en savent plus que qui que ce soit.
Voulez-vous être ma cousine?
Cela dépend-il de moi?
Absolument. Votre famille ne fera point de difficultés. Monsieur votre père est, dit-on, très accommodant. Quant à vos tuteurs maternels, quels sont-ils?
Ma grand-mère et monsieur Boutillier de Chavigny, mon oncle, nommé à l'archevêché de Sens.
Je leur parlerai, mais je ne vous le cache pas, vous m'inquiétez plus que tous les autres ensemble.
Je suis en effet la plus difficile à séduire. Pourtant, je verrai.
Bientôt?
Avant de quitter cette maison, je vous le promets, monsieur.
C'est trop long. Je ne puis vous accorder plus de 3 jours. Il faut que je retourne à Rome, et j'en veux finir auparavant. C'est moi qui vous marierai.
Nous n'y sommes pas encore.
Nous y viendrons.
Ne puis-je savoir le nom de votre élu?
Non, pas avant votre réponse.
Il fallut me soumettre. Nous causâmes le reste de la soirée, mais il ne fut plus question de cela. J'y pensais néanmoins. Je me taisais malgré moi, et les choses indifférentes ne me venaient guère aux lèvres, étant si loin de mon cœur. Mes yeux erraient par la chambre et se tournèrent par hasard vers un coin assez obscur où se tenaient 3 hommes que je ne connaissais pas. 2 ne me frappèrent point. Le 3e n'était pas plus remarquable et pourtant mon attention se porta sur lui. Il était arrivé le matin seulement et je ne l'avais pas avisé encore. Il paraissait avoir 36 ans. Il était d'une taille ordinaire, d'un visage ordinaire, d'une tournure ordinaire, enfin d'un aspect si ordinaire en toute chose que j'en fus frappé comme d'un coup de foudre.
« C'est là mon futur mari, » pensai-je, par un de ces pressentiments que rien n'explique. « Je suis certaine que c'est lui. »
Je le montrai à l'abbé de Sainte-Croix. Il se mit à rire de ma pénétration.
« Eh bien, puisque vous le devinez, je ne vous le cacherai pas. C'est en effet mon cousin. Comment le trouvez-vous?
Je ne le trouve point, monsieur. Il me serait impossible de former sur lui une opinion, et je gage qu'il n'en inspire aucune à personne.
C'est une excellente qualité. Lorsque la mine ne promet rien, on n'a rien à tenir, et tout ce qu'on donne est apprécié plus que cela ne vaut.
Comment s'appelle ce postulant? Ne me refusez pas de me l'apprendre. Je le saurai dans 5 minutes, si je veux.
C'est le marquis du Défunt.
Je me le tins pour dit et je tournai le discours. On se sépara. Je songeai toute la nuit. Je retournai cette proposition en 1000 sens. Je me figurai cet homme devenu mon maître, cet homme qui me semblait si nul, si peu fait pour arriver à quoi que ce fût, ni comme homme, ni comme mari. À côté de ce lourd fantôme, Larnage m'apparaissait. Larnage si beau, si charmant, si plein de feu, de tendresse, d'avenir peut-être. Mais Larnage, fils méconnu d'un prince, secrétaire perpétuel du duc de Luynes, sans pouvoir changer ce poste contre un meilleur, Larnage sans bien, sans espérance d'en acquérir jamais, pouvait-il épouser mademoiselle de Chanron? Était-ce là un parti? Non, sans doute. Tandis que monsieur Dudefant avait tous les genres de mérite nécessaires. Il ne lui manquait rien pour cela. Les 3 jours se passèrent en observation, sans un mot de prononcer.
L'abbé rapprocha deux ou trois fois monsieur du Deffand de nos conversations. Je dois lui rendre la justice d'ajouter qu'il ne nous gêna guère et qu'il ne parla pas beaucoup. Je fus au moins certaine qu'il ne m'embarrasserait jamais par ses propos. C'était un point de tranquillité. Que vous dirais-je de plus? Les trois jours se passèrent. Je m'ennuyais d'être fille. Je m'ennuyais de porter éternellement le nom de mon père. Cet ennui, mon ennemi mortel, commençait à naître. Je crus que c'était le célibat et que je m'ennuierais moins avec un mari. Je ne savais guère la vie en ce temps-là. Je donnai mon consentement. Je permis à l'abbé de Sainte-Croix de me présenter monsieur du Deffand en qualité de prétendant à ma main. Je racontai l'histoire à ma tante, on écrivit à mon père, à mes tuteurs, et en moins d'un mois, tout fut prêt, tout fut décidé. Ceux qui me connaissaient bien savent que je ne parle jamais de mon mari, que je n'ai jamais pu supporter les discours sur son compte. Il ne leur paraîtra point extraordinaire que j'en reste là des détails de mon mariage. Certaines actions, certaines pensées doivent se cacher à tous les yeux. Quels que soient les torts d'un mari, à quoi bon les révéler? Quels que soient aussi ses bons procédés, ils ne regardent personne. Les secrets de l'intérieur se conservent pieusement, à mon avis. On ne s'étonnera donc pas s'il est rarement question dans ses mémoires de monsieur du Deffand. Je vous l'annonce d'avance, cher lecteur, nous ne nous en occuperons qu'en cas de nécessité absolue. D'ailleurs, il a disparu si vite de ma vie où il tenait si peu de place. Je fus mariée à Chanron le 2 août 1718, la troisième année de la Régence, juste au bon moment pour voir le monde de ce temps-là et pour le juger. Il avait été convenu que nous partirions sur le champ pour Paris, et ce projet s'exécuta aussitôt que les fêtes de l'hyménée eurent pris fin. Je fis un grand soupir d'allègement en quittant la Bourgogne. Il me sembla voir le ciel ouvert sur cette route bienheureuse. Ce ciel devait se refermer trop tôt. Je n'eus pas le temps d'y pénétrer. Chapitre 9. Monsieur du Deffand, pendant le voyage, voulut faire l'amoureux. Et Dieu sait comment il s'y prenait. Un soir, impatienté des 100 000 gaucheries du jour, je lui demandai, d'un ton assez rogue, comment il appelait ses démonstrations et ses serments, et en quoi cela pouvait nous convenir à tous les deux. « Mais c'est de l'amour, et cela nous mènera au bonheur, si vous voulez. »« Ah, c'est là de l'amour, je suis bien aise de l'apprendre. Il n'y a pas besoin de me recommander de le fuir. Je le connais trop à présent pour y retourner, monsieur. » En moi-même, je savais bien que l'amour de Larnage ne ressemblait pas à celui-là, et que monsieur du Deffand avait en passion un air qui n'appartenait qu'à lui. Les femmes ont un coin secret dans leur cœur où elles enfouissent ce qu'elles ne s'avouent pas à elles-mêmes, et jamais les philosophes n'ont fourré le nez dans ce coin-là, bien qu'ils s'en vantent fort. De quoi ne se vantent-ils pas? Nous arrivâmes à Paris. Monsieur du Deffand nous logea chez une de ses parentes en attendant qu'on eût décidé notre position. Nous ignorions encore où nous nous fixerions. Je penchais pour Paris, mais il fallait savoir si nous y pourrions vivre convenablement. Notre première visite fut pour la duchesse de Luynes, et la première personne que je rencontrai en mettant le pied dans l'hôtel, ce fut Larnage, sortant avec un portefeuille à la main. Il me salua très respectueusement et devint pâle comme un linge. J'étais plus pâle et plus émue que lui. Monsieur du Deffand me demanda ce qui me troublait ainsi. Je répondis que j'étais incommodée de la chaleur et je me hâtais de monter chez ma tante. Elle m'accueillit à merveille, enchanta monsieur du Deffand par mille prévenances et nous retint à souper malgré mon refus. C'était justement ce que je craignais. J'allais me trouver en face de ce malheureux auquel j'avais écrit une lettre fort honnête au moment de mon mariage, en lui interdisant de me répondre. Il s'y conforma sévèrement, je n'eus point à m'en défendre. Le pauvre garçon m'obéit, et en souffrit étrangement, je l'ai bien su depuis. Ce jour-là, il parut à table comme un crucifié. Il osait à peine lever les yeux. Monsieur et madame de Luynes, qui ne se doutaient de rien, le plaisantèrent sur son élève et sur la réserve qu'il gardait avec elle. Il s'embarrassa dans une réponse stupide que l'on ne comprit pas, excepté moi, qui ne comprenais que trop. Je crus que ce souper ne prendrait point de fin. J'y fis cependant une rencontre dont l'influence fut grande sur ma vie. Celle de monsieur de Ferriol, ancien ambassadeur du roi à Constantinople, et de madame sa belle-sœur, laquelle était mademoiselle Guérin de Tencin, sœur du cardinal et de la célèbre chanoinesse que nous retrouverons souvent. Madame de Ferriol me prit en gré tout de suite. Elle me fit 1000 agios. Elle m'engagea à la venir voir et ne me quitta point que je ne lui eusse promis ma visite. Madame de Ferriol avait pour mari un receveur général des finances, qui devint, après, conseiller et président au Parlement de Metz. Sa femme ne s'en souciait guère et affichait fort publiquement un commerce avec le maréchal d'Uxelles, qui l'aima tant qu'elle fut jeune et qui ensuite la laissa pleurer ses charmes. En ce temps, elle se soutenait encore. Je la trouvais vieille parce que j'avais 20 ans, mais elle était vraiment belle et pouvait plaire à mieux qu'un podagre. Elle m'invita, dès le lendemain, à une espèce de fête que je n'eus garde de refuser, et qui, par le fait, se donnait pour moi. Madame de Ferriol, d'un caractère difficile, fantasque, capricieux, ne se consolait pas de vieillir, et tout ce qui l'entourait en portait la peine. Chaque rebuffade, chaque moment d'humeur du maréchal retombait sur des malheureux qu'elle punissait de ses larmes. Elle avait 2 fils, Pondevel et d'Argental, 2 compagnons de toute ma vie, qui y entrèrent à son aurore et qui ne se sépareront plus de moi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Elle semble nous avoir oubliés tous les 3. Pondevel et moi, nous sommes de la même année. D'Argental a 3 ans de moins. Et nous vivons, mon Dieu. C'est effrayant. Cette maison des Ferriol était à cette époque une des plus agréables de Paris. Elle recevait grande et bonne compagnie, et ils avaient tous de l'esprit. Nous y allâmes dîner. Nous étions conviés pour la journée, et nous y trouvâmes, entre autres, Milord Bolingbroke, ministre disgracié d'Angleterre, et la marquise de Villette, avec laquelle il vivait depuis 1 année déjà et dont il était éperdument amoureux. Nous y trouvâmes encore mademoiselle de Launay, femme de chambre, confidente de madame la duchesse du Maine, avec laquelle je me liai sur-le-champ. Nous y trouvâmes aussi madame la marquise de Parabère, alors dans tout l'éclat de sa faveur près de monsieur le régent. Elle fit beaucoup de pas vers moi, et je ne la repoussai point. Madame de Parabère était la séduction en personne. C'était une de ces enchanteresses auxquelles on ne peut résister, quelque envie qu'on en ait, et qui s'emparent de votre cœur malgré vous. Nous y trouvâmes surtout une extraordinaire et adorable créature, une turquesse, amenée en France par monsieur de Ferriol, dont je fis plus tard mon amie, et qui me plut dès le premier abord. On la nommait mademoiselle Haïssée. L'ambassadeur l'acheta toute petite fille pour la faire élever, et il la destinait à l'honneur de sa couche lorsqu'elle aurait l'âge. Ce qui paraissait tout simple au pays où il l'avait prise. Haïssée lui échappa avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'adresse. Elle resta sa fille seulement. Et quoi qu'en aient dit les sots propos du monde, monsieur de Ferriol ne lui baisa même pas le bout des doigts. Toutes ces personnes que je viens de nommer furent parmi mes intimes, et toutes ces personnes ont eu une vie singulière. Je veux vous la raconter. Je compte faire de ces mémoires une galerie, où l'on pourra chercher l'histoire de mon siècle et de la société que j'ai fréquentée. Je prétends ne m'astreindre à aucune règle, je prétends tracer mes portraits à ma fantaisie, je prétends exhumer ces figures disparues depuis longtemps à mesure qu'elles se présenteront à mon imagination ou à ma mémoire. C'est la seule façon de les rendre vivantes, d'être vraies, d'être exactes, et je tiens à l'un et à l'autre. Madame de Ferriole avait sa terre de Pont-de-Velle en Bourgogne, mais elle y allait rarement. Le prétexte de voisinage, si voisinage il y avait, fut cependant celui qu'elle prit pour me fêter et me recevoir ainsi. Je me laissais faire, enchantée que j'étais de cet entourage, de causer, d'entendre causer des gens d'esprit, et de graver dans mon souvenir ce que j'entendais. Fort ignorante, fort curieuse, avide de savoir, d'apprendre, je ne pouvais être à meilleure école. Je me sentais dans la sphère que j'avais rêvée, qui convenait à mes goûts, et il me sembla, pendant quelques heures, que j'aimais M. Dudefant, pour le remercier de m'y avoir conduite. Le soir, je vis pour la première fois Voltaire, qui venait de donner Œdipe et que l'on s'arrachait. Il avait déjà passé son année à la Bastille pour ses « j'ai vu » et était dans la fougue de sa rancune. Ce visage de chat me frappa d'abord. Bien qu'il fît patte de velours, on devinait la griffe, et malgré ses efforts, il la sortait quelquefois. Madame de Parabère en riait aux larmes, et, lorsqu'il risquait une épigramme, elle levait son petit doigt en fuseau, que je vois encore, pour le menacer. Une autre personne, d'une célébrité différente, arriva aussi pour souper. Ce fut Madame de Tencin, la sœur de Madame de Ferriole, si connue par son esprit, par ses intrigues et par la place qu'elle a tenue dans le monde au commencement de ce siècle. Elle avait à cette époque 36 ans environ. Elle était belle et fraîche comme une femme de vin. Ses yeux pétillaient, sa bouche avait un sourire en même temps doux et perfide. Elle voulait être bonne et se donnait 1000 peines pour le paraître, sans y pouvoir réussir. On n'en était pas dupe, elle le savait et le comprenait du reste. Elle ne se décourageait pas, bien qu'elle en fût horriblement contrariée. Plusieurs fois dans cette soirée, elle se prit de bec avec Voltaire, et rien n'était plus curieux que ces querelles. Ils ne s'aimaient pas, ils se craignaient, ou plutôt ils s'observaient, aiguisaient leurs regards et en ménageaient les traits pour les lancer plus sûrement ensuite. C'était un étrange spectacle. Je vous raconterai la comtesse Alexandrine de Tencin tout comme les autres. Patience, chacun viendra en son temps. Ah, quel beau jour pour moi que ces jours de jeunesse, que j'aime à me les rappeler. Quelle joie, quel succès, quels amours, et autour de moi, quels gens, quels esprits, comme on se hâtait de vivre. Cette hypocrisie, imposée par les dernières années de Louis XIV, ce masque, posé forcément sur le visage, pesait à tout le monde. On avait hâte de le déposer. On le jeta trop loin. Rien ne peut donner une idée de ce qu'était la société alors. Rien. Pas même ce que nous avons vu des débordements de la cour et de la ville sous le feu roi. L'exemple de monsieur le régent gagnait toutes les classes. Il semblait que l'on mit les morceaux doubles. Pour une jeune personne telle que j'étais, c'était une dangereuse école. J'y devais perdre naturellement ces principes méticuleux donnés par ma tante et par mes religieuses. Comme la religion ne les soutenait point, ils s'envolèrent bien vite. Il me faut l'avouer. Sans cela, comment expliquerais-je le reste de ma vie? Je n'ai jamais été connue. On a toujours attribué mes faiblesses à des causes qu'elles n'avaient point. Il n'est pas un de mes contemporains qui ne m'ait cru passionnée ou coquette. Je n'étais ni l'une ni l'autre. J'étais ennuyée. J'ai aimé pour me distraire. J'ai accueilli l'amour des autres par désœuvrement. J'ai changé d'amant parce que je m'ennuyais d'eux et que j'espérais m'ennuyer moins d'un autre. Je n'ai point réussi à tuer ce vieil ennemi. Il est encore triomphant dans ma vieillesse, après avoir brisé ceux que je lui opposais et qui tentaient de le vaincre. Il m'accompagnera au tombeau. Je lui cède maintenant. Il me suit, il me conduit partout où je vais. Il s'assied à table à côté de moi. Il verse lui-même dans ma coupe le dégoût ou la lassitude pour m'en abreuver ou me retenir sous sa verge de fer. Il est toujours entre moi et ceux qui m'approchent. Il dort sur mon lit pendant mes courts instants de sommeil. Jusqu'ici, cependant, mes souvenirs lui échappent. Le ciel fasse qu'il ne s'y glisse jamais. Chapitre 10. Le lendemain de la fête, j'étais à peine éveillée qu'on m'annonça Madame de Parabère. Elle forçait ma porte et venait me surprendre dans le petit appartement que j'habitais, dont j'étais honteuse déjà, et que je voulais échanger bien vite contre une maison convenable. Ma journée chez Madame de Ferriole m'avait décidée, et il ne pouvait plus être question pour moi de quitter Paris. Je sentais que je ne vivrais pas ailleurs désormais et que ma place était là. Notre parente, bonne dévote qui ne voyait personne, s'enfuit au fond de son jardin en apprenant qu'elle avait été chez elle la maîtresse de monsieur le régent. Mon mari la brusqua et l'appela prude. Elle lui répondit que toute l'eau bénite du diocèse ne laverait pas la place où cette impure avait passé. Moi, pendant ce temps, je recevais la marquise, toute charmante et toute fraîche, malgré l'heure matinale et une nuit entière passée au Palais-Royal, dans une de ces orgies qui ont fait vivre Madame la Duchesse de Berry de 100 ans en 25. Madame de Parabère était construite en acier. Petite, mince, délicate en apparence, elle avait en réalité une santé de mousquetaire. Ses beaux yeux noirs tenaient plus encore que leurs promesses, déjà bien provocantes cependant. Son teint d'un blanc cuivré, ses cheveux comme de l'ébène, l'avaient fait surnommer par son royal amant le petit corbeau. Elle riait de ce sobriquet, en signait souvent ses billets du matin. « Ma toute belle, me dit-elle en entrant et sans écouter mes excuses, je sais ce que vous allez me dire sur votre chambre et sur votre toilette. Cela ne signifie rien entre nous. Vous me plaisez infiniment. Je raffole de vous depuis hier. J'en ai parlé toute la nuit à monsieur le régent et à madame la duchesse de Berry. Je vous mènerai chez eux. C'est convenu. » « Mais, madame, vous ne le voulez pas ? Ce n'est pas moi, c'est... monsieur Dudefant ! » interrompit-elle. « Est-ce que monsieur Dudefant veut quelque chose ? Je l'ai vu pendant un quart d'heure. Cela m'a suffi pour savoir ce qu'on pouvait attendre de lui. Ne raisonnez pas. Leurs altesses royales vous attendent. Je vous présenterai un de ces jours. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit en ce moment. Je viens vous enlever. » « Moi, madame ? Oui, vous, et sans votre mari encore. Vous dînerez avec moi. » « C'est impossible. » Impossible ? Ah, quel mot de province qu'on ne connaît pas ici. Comment une personne aussi spirituelle que vous peut-elle l'employer ? Impossible. Dépêchez-vous de vous habiller et allons-nous-en. Cette maison a des parfums de cloître qui me donnent des vapeurs. Quand la quittez-vous tout à fait ? Je ne trouvais point de réponse à ce flux de paroles. Cependant, comment laisser monsieur Dudefant au logis et courir seul à l'aventure ? Je me défendis de tout mon pouvoir. Madame de Parabère riait et levait les épaules à mes raisons. Elle ouvrait mes coffres, mes tiroirs, en tirait mes habits, mes joyaux, mettant d'un côté ce que je pouvais garder, suivant elle, et de l'autre ce dont il fallait me défaire. Et tout cela, tout en jasant, en chantant, en tournant par la chambre, en se raillant de moi, en m'embrassant sur les deux joues et en se manquant fort de ma cousine, de sa maison, de ses meubles, de sa livrée, de ceux qui m'entouraient enfin, sans en excepter mon mari. Lorsqu'elle eut fini son triage, elle appela ma femme de chambre et comme je lui demandais ce qu'elle en voulait faire, « Attendez !» me dit-elle, « vous allez voir !» La femme de chambre entra. « Comment vous nommez-vous » continua madame de Parabère. « Paulette, madame, » répliqua l'autre avec une brève révérence. « Eh bien, mademoiselle Paulette, voilà des hardes et des effets que madame la marquise vous donne. Remerciez-la et servez-la toujours bien. Allez, mamie, on vous rappellera pour habiller votre maîtresse. » Je restais ébahie. Elle disposait ainsi de ma garde-robe, de mes cadeaux de noces achetés à Dijon et dont j'étais si fière, et sans s'informer s'il me restait les moyens de les renouveler, j'étais sur le point de m'en fâcher tout haut. Madame de Parabère s'en aperçut, elle ne me laissa pas le temps de parler. « Ma chère petite, me dit-elle, il faut vous habiller comme tout le monde, il faut oublier la province et vous transformer. Une femme de votre âge et de votre beauté ne peut pas porter des oripeaux semblables à ceux dont je vous débarrasse. Ne les regrettez pas, achetez-en d'autres, et soyez sûre, si cela vous inquiète, que l'argent ne vous manquera pas. » Elle m'embrassa ensuite, me cajola de telle sorte que ma mauvaise humeur disparut. Je me laissai aller à lui promettre que j'irais dîner et que je passerais la journée avec elle. « Nous aurons Voltaire ! Je me suis réjouie de le faire venir chez moi et de le forcer à me faire la révérence, lui qui a tant écrit, tant parlé contre monsieur le régent. J'aime ces contrastes, je les recherche, j'aime tout ce qui est étrange, et je trouve la vie très douce ainsi. Oh, les sévères, les moralistes auront beau dire, je ne croirai jamais que nous soyons sur la terre pour être malheureux. » Elle partit sur cette sentence, légère et vive comme un oiseau, me laissant à moitié charmée et très embarrassée surtout, de savoir comment j'allais faire pour me donner un air de cour et pour ne pas sembler une provinciale renforcée. Je pris défiance de moi-même. Je me persuadai que j'étais ridicule. J'eus peur des réflexions et des épigrammes. Pour un rien, je serais retournée en Bourgogne. Heureusement, mon miroir me sauva. Au milieu de ma toilette, on m'annonça une visite d'un autre genre et tout aussi agréable pour le moins. Je ne pus la renvoyer non plus, j'en aurais été bien fâchée. C'était madame de Stal, c'est-à-dire mademoiselle de Launay. Elle n'était point mariée alors. La rencontre était curieuse. Monsieur le duc d'Orléans et le duc du Maine étaient ennemis jurés, ils l'avaient été toute leur vie, et depuis la régence, c'était devenu une haine inextinguible. Je me trouvai lancé dès l'abord dans les deux camps, ce qui n'était pas une position facile, je vous assure. Mademoiselle de Launay me répéta ce que je venais d'entendre de madame de Parabère. « Il faut que vous veniez à Sceaux. J'ai pensé à vous depuis hier. Vous êtes justement faite pour plaire à madame la duchesse et pour devenir sa favorite. Elle vous aimera à la passion. Vous les détrônerez toutes. » « Vous croyez, mademoiselle, que son Altesse daignera me recevoir ?»« À bras ouverts, vous dis-je, et avec une grande joie. On s'amuse beaucoup à Sceaux. On y joue la comédie, on y donne des fêtes charmantes. La princesse aime par-dessus tous les gens d'esprit, et vous en avez tant, que vous êtes sûre de sa faveur. » « Moi, mademoiselle, je suis une sotte. J'en suis doublement convaincue depuis hier. » Et je ne saurais pas tenir ma place dans ce palais où tant de beaux esprits brillent incessamment. Allons donc, vous y trônerez des premières. J'y retourne tout à l'heure, et je vous annonce. Vous serez, je n'en doute pas, invitée bientôt. Madame ne laissera point échapper une occasion aussi rare de trouver réunis l'esprit et la beauté. À Sceaux et au palais royal. Les soupers de monsieur le duc d'Orléans et les comédies de madame du Maine. C'était bien pour une débutante. Aussi la tête m'en tourna quelque peu. J'eus un instant d'éblouissement, et j'allai droit à mon mari pour lui signifier son exclusion et la liberté que je lui laissais. Il me regarda avec des yeux ronds qui voulaient parler, et qui ne disait rien. En toute chose, la volonté ne manquait pas à M. Dudefant. L'exécution seule était difficile.
J'irai en passant chez Mme Deluine, monsieur, et si vous y voulez venir, j'en serai charmé. Après quoi je vous laisserai à Madame votre cousine, et l'honneur de votre compagnie lui sera très agréable, je n'en doute pas. Elle a plusieurs personnes à dîner, de saintes personnes dont je ne suis pas digne, et qui s'édifieront beaucoup de votre entretien. »
Monsieur Dudefant resta quelques instants immobile à la même place. Je ne sais trop à quoi il pensait, et s'il pensait même. Ensuite, il me fit la révérence et s'en alla. Je le retrouvai à l'heure fixée, attendant dans mon salon, et essayant de lire « Œdipe », auquel il ne comprenait pas grand-chose. Il n'a jamais pu se débrouiller du sphinx et du minotaure. Ces mots sont restés dans sa tête, sans s'expliquer ni se caser à une place. Et rien n'était drôle comme les discussions qu'il avait là-dessus, avec un pédant commensal assidu de sa parente. Il ne s'entendait point et finissait par s'injurier le plus poliment du monde. C'était une bouffonnerie fort amusante, je vous assure, et dans laquelle je restais neutre, de peur de la faire cesser. Lorsque nous entrâmes chez Madame de Luynes, où il y avait toujours et à toute heure fort grande compagnie, j'étais un peu ému. L'arnage pouvait se trouver dans quelque coin. Il y était en effet, et s'approcha de moi après la première presse. J'avais grande envie de lui parler aussi. Je le reçus en rougissant, je lui fis place, et je lui demandai, comme une sotte, des nouvelles de sa mère avec une voix tremblante. Il s'inclina pour me remercier, et tout de suite il me dit « Êtes-vous bien heureuse, madame ?»«
Sans doute, monsieur, ne faut-il pas l'être ?»«
Ah, madame, vous avez eu peu de confiance en moi, peu de patience aussi. J'aurais atteint la fortune pour vous si vous l'eussiez voulu. » »«
Hélas, monsieur, la fortune court très vite, et vous marchiez bien lentement, ce me semble, car je vous retrouve à la même place. »
« Madame, vous êtes trop cruelle. Vous me reprochez mon impuissance et mon malheur. »«
Monsieur, je me défends. D'ailleurs, que vous avais-je promis ?»«
Rien. Mais vous m'aviez écouté, vous m'aviez laissé l'espoir, et j'espérais. »«
Qu'allez-vous faire maintenant ?»«
Madame, je n'espérerai plus, mais j'aimerai toujours. »
Je trouvais l'arnage particulièrement beau en parlant ainsi. Madame de Luynes, qui venait d'arracher des paroles à Monsieur Dudefant, s'approcha tout agrimachée et me demanda de la suivre dans son cabinet où elle avait quelque chose à me dire. Je fus arrachée à cet entretien qui me plaisait et je me levai de très mauvaise humeur. La physionomie de ma tante était à la morale. Je la connaissais de longue main. Cependant, j'étais loin de m'attendre à ce qu'elle allait me servir.
« Ma nièce, » me dit-elle sans me laisser le temps de m'asseoir, « votre mari m'a appris sur votre compte des choses qui m'étonnent. »«
Qu'est-ce donc, madame ? Il prétend que vous vous rendez tout à l'heure, seule chez Madame de Parabère, cette honte de la noblesse, cette personne que personne ne salue plus quand on la rencontre. »«
Cela est vrai, madame. » répliquai-je sans m'étonner, mais me promettant en moi-même de faire payer à mon cher époux son bavardage. La duchesse resta stupéfaite de mon audace. Elle avait compté sur une excuse, sur un mensonge peut-être. Cette franchise, cet aveu d'une énormité aussi incroyable, lui comprima la parole. Elle trouva seulement un
« Vous l'avouez !»
plein de terreur et de désolation. Madame de Luynes était sévère. Ses liaisons, ses habitudes, ses rapports de famille la tenaient à l'ancienne cour, à la pruderie. Ses legs du grand roi que nous nous empressions d'écarter avec joie et promptitude, comme son testament. On comprend du reste que la vie du palais royal fut sévèrement blâmée par une personne scrupuleuse et qu'elle regarda comme de son devoir d'en écarter une jeune parente sans expérience, déjà sur le bord de l'abîme. Elle avait certainement raison, je le sais. Mais alors, je n'étais pas de cet avis. « Et où est le mal, madame ? » repris-je sans me déconcerter. « Madame de Parabère n'est-elle pas d'aussi bonne maison que madame de Véru ? Et fait-elle autre chose que ce que celle-ci a fait ? Or, j'ai eu l'honneur de rencontrer madame votre belle-sœur à votre table et à votre château de Dampierre. J'ai cru ne pas m'égarer en suivant la route où vous marchez vous-même. » Je savais quel coup je portais. La duchesse, ne supportant pas une allusion à l'ancienne intrigue de la comtesse de Véru avec le roi de Sardaigne. Elle et son mari l'avaient accueillie à grand-peine, et pour ainsi dire malgré eux. Ils la voyaient le moins possible, et en gémissant, mais ils la voyaient, et c'était une grande croix qu'ils portaient. Le trait avait donc touché juste. Ma tante se leva d'un air sec et gêné, et me montra la porte d'un geste souverain. « Allez donc, madame, puisque vous le voulez. Mais si vous déshonorez votre nom, ne comptez pas sur moi pour vous soutenir. J'ai rempli mon devoir, je ne vous en parlerai plus. » Chapitre 11. J'allais donc chez madame de Parabère, infatuée de ma victoire. C'était réellement une levée de bouclier. Résister en même temps à mon mari et à ma tante, quand cette tante surtout était la duchesse de Luynes. Pour un début, je promettais. Maintenant que je vois les choses de loin et sensément, je conviens que j'avais tort. Ce n'était pas tout à fait ma faute. L'esprit de mon temps, les idées de révolte, devenues si imminentes aujourd'hui, commençaient à poindre et m'emportaient. On respectait déjà moins les parents et les devoirs. Ceux de l'autre siècle en gémissaient avec raison. Cela nous a conduits bien loin, et nous ne sommes qu'en haut de la pente. On verra après nous. Madame de Parabère m'accueillit les bras ouverts et avec des exclamations. « Je ne vous attendais plus, ma reine » s'écria-t-elle. « Qui vous a retenu ?»« Ce qui retient les femmes, mon mari. » « Ah, que vous avez été folle d'en prendre un! Que je regrette de ne pas vous avoir connu plus tôt, comme j'aurais arrangé autrement votre existence !»« Ne le fallait-il pas? Ou bien rester mademoiselle de Charon et devenir une vieille fille comme ma tante ?»« Il fallait s'appeler la comtesse Marie de Charon et devenir une chanoinesse comme la comtesse Alexandrine de Tencin. » Ah, c'est vrai !» répliquai-je en soupirant. « Pourquoi mes parents n'ont-ils pas songé à cela ?»« Une chanoinesse, mais c'est le parangon du bonheur sur la terre, une chanoinesse. Libre, bien placée partout, avec la consistance d'une femme mariée, point de devoir, point de mari, un revenu qui permet de vivre et d'accepter l'aide des autres, l'indépendance d'une veuve, sans les souvenirs, et ce genre de lien que vous impose la famille, un rang incontestable qu'on ne doit à personne, l'indulgence, l'impunité même. Les propos et les discours dont on se moque ne vous atteignent pas, parce qu'ils ne peuvent rien changer à votre état. Et pour tous ces avantages, la peine de porter une croix qui vous sied, des habits noirs ou gris qu'on peut rendre aussi magnifiques qu'on le désire, un petit voile imperceptible et un affiquet. Convenez que c'est tout bénéfice. Ah, si je n'étais pas la marquise de Parabère, je serais certainement la comtesse Marie de la Vieuville. L'un vaut l'autre. Oui, grâce à mon parti pris, il faut qu'on me prenne ainsi ou qu'on me laisse. Je ne changerai pour personne, je l'ai hautement annoncé. Je suis jeune, jolie, libre, riche. J'ai l'esprit de mon âge et de ma condition. Je m'amuse, je veux m'amuser, le plus longtemps possible, m'amuser toujours, s'il y a moyen, et jeter les soucis à la porte. Qui me saurait gré de faire autrement? Ah, personne, sans doute, si ce n'est l'ancienne cour et l'école montée. Je préfère me brouiller avec eux, ils m'ennuient. De cette manière, j'en suis débarrassée. « Monsieur le régent vous aime beaucoup, et vous l'aimez sans doute tout autant. Cela console et cela tient lieu du reste. Du moins, je suppose qu'il en est ainsi. » Ajoutai-je, un peu honteuse de paraître si instruite et d'avoir laissé au souvenir de l'arnage un empire absolu sur ma pensée. Madame de Parabère me regarda en riant et en levant légèrement les épaules. « Philippe ? Oui, il m'aime bien. À sa manière. Et moi je l'aime bien aussi. À la mienne. Connaissez-vous le régent ? »
Je n'ai pas eu l'honneur de lui être présenté.
« Je vous mènerai au palais royal. Je vous mènerai aussi chez madame la duchesse de Berry. Vous la verrez, cette princesse, et vous m'en direz votre sentiment. »
J'eus comme un mouvement de vergogne et de pudeur révoltée à cette proposition, mais je n'osais le montrer. Je craignais la raillerie.
« Monsieur le régent ne viendra pas chez vous aujourd'hui, j'espère. »«
Qui sait ? J'espère bien qu'il viendra au contraire. »
« Je n'ai pas prié Voltaire pour autre chose. Je suis enchantée de les mettre ensemble. Ce petit Arouet enrage en dedans, et il a un esprit fou. Le bon Philippe voudrait se mettre en colère contre ce serpent. Il n'en a pas la force, et il lui pardonne d'avance tout ce qu'il fera, comme il lui a pardonné ce qu'il a fait déjà. Il a pardonné toute sa vie, le débonnaire qu'il est. Ah, c'est un amusant spectacle, vous verrez. »
Est-il bien convenable que monsieur le gérant me trouve chez vous? N'en sera-t-il pas offensé?
Vous prenez le régent pour un Louis XIV, donc. Il est toujours charmé de voir une jolie femme, et il ne s'inquiète guère de son rang lorsqu'il est auprès d'elle.
Cette existence évaporée, ces discours qui ne respectaient rien, cette franchise qui ne se respectait pas elle-même, ne ressemblait point à la vie de province, à ces paroles mesurées de ma tante et de mes religieuses. J'en fus non pas scandalisée, non pas blessée peut-être, mais étonnée jusqu'à l'épouvante. Madame de Parabère s'en aperçut, elle m'embrassa follement et me dit d'un ton où la sensibilité perçait malgré elle. « Je vous comprends, ma reine, j'ai été ainsi. Cela se passe, allez. » Et l'on est bien plus heureux quand on n'entend plus d'autre bruit que celui du plaisir. » On annonça Voltaire juste à ce moment. Il entra, sans embarras et sans gaucherie. C'était alors un drôle de jeune homme. Bien peu de gens aujourd'hui se le rappellent. Nous ne sommes plus guère de ce temps-là. Sa grande taille et sa maigreur n'étaient ni plus ni moins qu'aujourd'hui. Son visage était le même, à cela près des rides. Son œil étincelait, sa bouche souriait toujours, d'un sourire coupant et brillant comme une lame. Il était pâle, d'un teint bilieux, d'un air assez avenant lorsqu'on ne le piquait point. Pourtant, il fallait une grande habitude de son esprit pour être sûr qu'il ne se moqua pas de vous. On le croyait flatteur et obséquieux auprès des grands, tandis que toute sa personne n'était qu'une épigramme. Je le connus et je l'appréciai dès ce jour. Il s'en aperçut et m'en sut bon gré. Il me l'a répété souvent depuis. « Mon cher poète, dit la marquise, vous allez dîner avec madame la marquise du Deffand, qui veut bien me permettre de vous présenter à elle. Elle arrive de province, afin de nous prouver qu'on y a plus d'esprit qu'à Paris. » Voltaire me salua et jeta sur moi un de ces regards qui vous aspiraient tout entière. Après cela, il savait qui j'étais, ce que je valais, et n'avait plus besoin de renseignements. « Monsieur de Voltaire, avez-vous quelques vers à nous lire ?»«
Des vers, madame ? Moi, faire des vers et les apporter ici ? On en a trop fait pour moi, je puis me reposer. »«
De la rancune, monsieur ?
De la rancune, madame, non ? De la justice. »
Je me souviens.
Pour un petit peu de Bastille, cela vaut-il la peine de se gendarmer ainsi contre un bon prince auquel Dieu a oublié de donner du fiel?
Je ne me gendarme contre personne, madame, et contre monseigneur le régent encore moins que contre un autre. Il a eu pour moi mille bontés. Seulement, je ne saurais oublier ces bontés-là.
Je tiens à les mériter toujours, et je ne dirai point mes vers si j'avais le malheur d'en composer. Ce n'est point un crime de lèse-majesté que je pense. »
La marquise se mit à rire. On riait fort en ce temps-là.
« Je ne sais pourquoi vous vous plaignez de vos vers, messire Arouet. Ils viennent cependant de vous apporter un beau succès. Et monsieur le régent a applaudi des deux mains votre Œdipe, malgré les méchants, malgré les interprétations et les calomnies. Parce que monseigneur le régent a plus d'esprit que ses ennemis et les miens. Parce qu'il juge les hommes ce qu'ils valent et les choses ce qu'elles sont.
Et parce qu'il est bon, trop bon surtout, ajouta-t-elle avec intention.
Qu'est-ce à dire, madame? Croiriez-vous que cette bonté s'est fourvoyée pour moi? Que je ne la méritais pas? Que j'étais coupable?
J'ai vu, mon cher monsieur, j'ai vu.
Ah, parbleu, madame, et moi aussi j'ai vu. J'ai vu surtout les quatre murs de la Bastille, le vilain nez du geôlier, l'air flamboyant de monsieur le gouverneur, et je n'ai pas envie de les revoir.
De bonne foi, n'aviez-vous point gagné ces visions-là pour avoir si bien raconté les visions cornues que votre critique vous avait prêtées?
En vérité, madame, les « j'ai vu » ne sont pas de moi. Je le répéterai jusqu'à satiété. Je les renie. Je les renie devant Dieu et devant les hommes. Et puisque vous me poussez à bout, je vous dirai que si je me mêlais de satire, j'en ferais d'une autre façon.
Ah, ah, comment la feriez-vous?
Demanda madame de Parabère en se roulant sur son sofa comme une chatte affriolée par la crème.
Madame, vous me permettrez de garder cela pour moi, car s'il paraissait quelques pièces de vers ou de prose où les mêmes idées se retrouvassent, on ne manquerait pas de me les attribuer, et j'ai assez de mes péchés, sans expier ceux des imbéciles. »
On vint annoncer le dîner, qui fut très bon. La marquise était gourmande, comme tous les gens d'esprit. C'est elle qui m'ouvrit ce temple, fermé pour moi jusque-là, et je lui en ai bien de l'obligation, depuis surtout que je n'en puis plus servir d'autre. Voltaire oublia sa prison et fut charmant. Il nous fit des compliments, il se moqua de tout le monde, il piqua sur tous les ridicules et déchira particulièrement la comtesse de Tencin, qu'il ne pouvait souffrir. Elle prétendait qu'il l'avait trop aimée et qu'elle avait repoussé cet amour, ce qu'il ne lui pardonnait pas. J'en doute. Voltaire n'a jamais aimé les femmes. Il a eu un sentiment scientifique et vaniteux pour madame du Châtelet, laquelle n'en triompha qu'en violant son esprit. Je ne voudrais rien jurer pour des liens plus terrestres. Je vous raconterai en leur temps ces amours-là dont j'ai été témoin, et vous verrez combien cela se passait dans les astres et au milieu des nuages. En sortant de table, nous trouvâmes dans le salon un seigneur de moyenne taille, d'un visage affable, d'une parfaite bonne grâce, d'une grande noblesse de port et de geste, et dont la physionomie était spirituelle et bonne en même temps. Madame de Parabère, qui me conduisait par la main, en riant, suivant son habitude, me lâcha à son aspect et courut à lui.
« Ah, monseigneur, déjà !» dit-elle en lui faisant une demi-révérence. « Vous êtes plus aimable que vous ne l'aviez promis. »
« Et que vous ne le désiriez peut-être ?» ajouta le prince.
Quelle folie! Je suis seule avec la jeune amie dont je vous ai parlé, et de monsieur de Voltaire.
Ce qui n'est personne, monseigneur, ajouta celui-ci en s'inclinant profondément.
Madame la marquise du Deux-Fans, monseigneur, continua la folle créature en m'attirant vers le prince. Une charmante femme pour laquelle je vous demande vos bontés. Son mari est au service. Il est impossible qu'il n'ait pas quelque sollicitation à faire et que vous n'ayez pas de grâce à lui accorder.
C'est à madame de me donner ses ordres, et je m'empresserai d'obéir, répondit le prince avec un regard que les femmes devinent et qui sont tout un discours. Je ne sus rien trouver qu'une sotte révérence. Une de ces révérences de paon, ou plutôt de dinde, faisant la roue, enseigne de l'embarras ou de la suffisance. Le prince ne s'y trompa pas. Il me laissa le temps de me remettre, et se tournant vers Voltaire, dont le sourire parlait, « Vous voilà, monsieur le prophète, monsieur le raisonneur, » lui dit-il. « J'ai pensé à vous ce matin. » « À moi, monseigneur, aïe, aïe, j'ai grand peur. N'y a-t-il point de Bastille au fond de cette pensée ?»«
Vous n'avez pas fait les philippiques, monsieur de Voltaire. Vous en êtes incapable. »
continua le régent d'un ton ému et pénétré.
« A-t-on osé m'en accuser, monseigneur ?»
s'écria le poète indigné.
« Non, non, monsieur. D'ailleurs, l'auteur ne se cache point. C'est Lagrange Chancel, un ancien page de la princesse de Conti, maître d'hôtel chez ma mère, nourri par notre maison, élevé par elle. C'est cet homme qui m'accuse d'être incestueux, empoisonneur, que sais-je ?»
Madame de Parabère, voyant qu'il s'attendrissait, voulut lui prendre la main. Elle savait combien cette plaie était profonde. Depuis que monsieur le duc d'Orléans connaissait Sévère, il en parlait à tous ceux qui l'approchaient. Le prince la repoussa doucement.
« Soyez tranquille, madame, je ne m'en occuperai plus. J'ai fait justice ce matin. »«
Quoi ? Monseigneur, Lagrange ?
Vous l'avez envoyé rouer, j'espère ?»
dit vivement la marquise.
« Non, madame, je l'ai vu et je lui ai demandé s'il pensait réellement les horreurs qu'il a écrites. Il m'a répondu qu'il pensait tout cela.
« Tant mieux, car s'il en était autrement, je vous aurais fait pendre, » lui ai-je répondu.
« Je l'ai condamné aux îles Sainte-Marguerite, et je ne l'y laisserai pas longtemps, il n'a offensé que moi.
Quant à vous, monsieur de Voltaire, ma pensée était meilleure que vous ne le croyez. Vous pouvez passer chez mon trésorier. Il vous remettra certaines sommes pour aider Œdipe jusqu'à un autre succès.
Ah, monseigneur, que je vous remercie. Chargez-vous toujours ainsi de ma nourriture, mais non plus de mon logement. »
Le régent allait répondre lorsque la porte s'ouvrit et un laquais annonça le comte de Horn. Le visage du prince se contracta sur le champ, et madame de Parabère devint fort rouge. Quant à Voltaire, il souriait toujours. Seulement, il évita de regarder personne. Son sourire était trop bavard.